En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie, la première radio académique francophone au monde pour l'émission En Séance, rediffusion depuis la grande salle des séances de l'Institut de France Quai de Conti à Paris, rediffusion de la communication prononcée par Monsieur Jean-Paul Clément, correspondant de l'Institut, directeur de la maison de Chateaubriand. C'était le lundi 27 juin 2005 devant l'Académie des sciences morales et politiques. En séance publique, donc, une communication intervenant dans le cadre de l'année de travail définie par le président de l'Académie des sciences morales et politiques en 2005, Monsieur Jean Tullard, historien Jean Tullard, ayant défini comme thème de travail « Peut-on faire confiance aux historiens ?» Et dans ce cadre, voici donc la communication de Jean-Paul Clément intitulée « Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon ». Nous rejoignons tout de suite la grande salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, mon propos serait certainement mieux adapté si je traitais de la biche et de 37 degrés à l'ombre, mais le sujet n'est pas celui-ci, si ce n'est que je citerai pour ouvrir cette communication une citation tout à fait étonnante de Jean Cocteau. « J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire, écrit-il, parce que l'histoire est faite de vérités qui à la longue deviennent des mensonges, et que la mythologie est faite de mensonges qui deviennent à la longue vérités. » Alors je laisse à Cocteau la responsabilité de ses paroles dans cette assemblée, mais il est vrai que Napoléon a commencé à l'inverse de tout autre par le mythe avant d'entrer dans l'histoire. Il fait partie de ces héros très rares de la guerre, de l'amour, de la poésie, à avoir connu de son vivant cette société légendaire où se côtoient Prométhée et Don Juan. Jeune, il avait dévoré la vie des hommes illustres de Plutarque, appris par cœur les Institutes de Justinien, lu et relu les commentaires de César, parcouru les vies de Charlemagne et de Louis XIV qu'il souhaitait surpasser. Dès la campagne d'Italie 1797, il donne le ton dans le bulletin des armées. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. À l'instar des dieux de mer, écrit Chateaubriand dans les mémoires, il veut arriver en quatre pas au bout du monde. Il paraît sur tous les rivages. Il inscrit précipitamment son nom dans les fastes de tous les peuples. Il jette des couronnes à sa famille et à ses soldats, il se dépêche dans ses monuments, dans ses lois, dans ses victoires. Penché sur le monde, d'une main, il terrasse les rois, de l'autre, il abat le géant révolutionnaire. Mais en écrasant l'anarchie, il étouffe la liberté et finit par perdre la sienne dans son dernier champ de bataille. Partout présent, stratège, législateur, mécène, mémorialiste, ses moindres mots, déclarations, actions sont pieusement recueillis, amplifié pour forger avec le mémorial la nébuleuse d'un témoignage, de mémoire qui l'entoure et forme une sorte d'aura autour de Napoléon. Et Mathieu Mollet, dans ses souvenirs de jeunesse, affirme qu'il sera difficile de juger de la part de vérité et d'erreur qui existe derrière les actes et paroles de l'empereur. Et Norvins, l'un des premiers historiens qui se veut faire du sérieux mais qui finit dans la géographie, écrit et avoue son impuissance, l'excès du génie, l'excès de la fortune, l'excès du malheur, voilà pour l'historien qui fait trembler à l'aspect de ses proportions colossales. Face à cette volonté d'entrer tout vif dans le mythe, je propose en effet d'étudier aujourd'hui l'effet produit sur trois écrivains de génie, Chateaubriand l'aîné, né en 1768, et ses deux cadets, Lord Byron, né 20 ans plus tard, et Pouchkine en 1799. Le second avait 11 ans au moment de la campagne d'Italie, et l'autre 13 lorsque la Grande Armée envahit la Russie. Chateaubriand, lui, appartient de même que Pouchkine et Byron à ce que Tocqueville appelle les anciennes races. Lui a été pris dans les déchirements de la Révolution, mais reste attaché à ses origines nobles et à cette classe dont il estime que les mœurs sont ingagnables. Byron, lui, appartient à une très ancienne famille normande qui comptait des ancêtres violents, excentriques, prompts à se faire justice eux-mêmes, et Pouchkine était issu d'une des plus illustres familles de Russie, depuis Alexandre Nevski jusqu'à Catherine II. Donc nous avons Chateaubriand, celte, frondeur, positif et chimérique, Byron, hors-la-loi, sulfureux, mélancolique, être fantastique pour Lamartine, et Pouchkine, passionné, fougueux, querelleur, duelliste, et on sait que ce duel lui coûtera la vie, qui comptait dans sa lignée d'ailleurs un prince abyssin adopté par Pierre le Grand. Donc tous trois hors du commun, confrontés à cet homme qui est Napoléon, qui paraît, écrit Chateaubriand dans ses études historiques, à l'entrée d'un nouvel univers, comme ces géants qui se montrèrent à la terre après le déluge. Alors, l'Angleterre de Byron, c'est aussi celle de Pitt et de Wellington, ennemi implacable de la France napoléonienne, et qui a réduit l'empereur déchu à un rude exil. La Russie a connu l'invasion et l'incendie de Moscou. L'écrivain Karamzine, qui fut proche de Catherine II, dénonce en Napoléon un nouvel Attila, un Gengis Khan, un Tamerlan. Et en France, Napoléon, victorieux à tous les plébiscites, adoré par la grande armée, est devenu si impopulaire en 1814 qu'il manque d'être assassiné à Orgon alors qu'il se rend à l'île d'Elbe. Contre ce géant, Chateaubriand, Byron et Pouchkine ont répondu à l'unisson dans un premier temps par une hostilité virulente, contribuant à forger ce que notre président Jean Tullard a appelé la légende noire de l'empereur. Chateaubriand, rappelons-le, est rentré d'exil en 1800. Il a publié Le génie du christianisme, se faisant le porte-drapeau flamboyant de la politique concordataire. Diplomate, il a échoué à Rome face à l'irascible cardinal Fesch. Et en 1804, à quelques mois du sacre, il rompt avec Bonaparte après l'exécution du duc d'Enghien, acte de séparation pour lui irrémissible, meurtre contre le passé et meurtre d'émancipation terroriste. En 1807, de retour de son itinéraire de Paris à Jérusalem, il insère dans le Mercure de France une page qui est un véritable factum, où il compare l'empereur Napoléon aux empereurs les plus sanguinaires de l'Antiquité romaine. Et nous retrouvons cette phrase que chacun a en mémoire, bien entendu, « Lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. » Et superbe, il ajoute, « Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n'en avait pas fini avec moi. » Retiré à la vallée aux loups, il assiste à l'effondrement de l'Empire. En 1814, la bataille de France semble perdue. Les maréchaux sont prêts à se rendre, mais l'idole n'est pas abattue. Il publie alors à ses risques et périls, le 4 avril 1814, un pamphlet féroce de Buonaparte et des Bourbons, rassemblant tous les griefs qui se répandaient sous le manteau et contribuaient justement à cette légende noire. Et je les ai un peu, si je puis, résumés. Tout d'abord, Napoléon est une sorte de Napoléon Brinvilliers, lorsqu'il donne l'ordre d'empoisonner les survivants de Jaffa. Napoléon est cynique lorsqu'il revient seul de Russie, abandonnant ses armées dans les plaines glacées, avec des ombres gelées qu'il laisse vagabondes après lui, et s'assoit au coin du feu en disant avec bonhomie « Mais il fait meilleur ici que sur les bords de la Bérézina ». Ensuite, j'appellerai le Napoléon sade. Il n'aimerait pas même le cri d'un grand crime si ce crime n'était pas son ouvrage. Napoléon Buonaparte, l'étranger, avec l'insistance sur le « U » de Buonaparte, selon l'orthographe bien arrêté dans le noble faubourg. Napoléon Alexandre aussi, du fracas de ses conquêtes, il ne subsiste rien. Et puis Napoléon Néron, jugé par Chateaubriand, tacite, lorsqu'il examine les erreurs de l'empereur, victime de sa folie de conquérant, le blocus continental, la guerre d'Espagne, l'enlèvement du pape. mais il termine par un Napoléon phénix. Renaissant de ses cendres, et dont le pamphlétaire prévoit le retour, il méditera, dit-il, en silence sa vengeance. Tout à coup, après un ou deux ans de repos, il nous appellera aux armes, franchira les places de sûreté. En 1812, quand la grande armée prend le chemin de Moscou, Pouchkine est au lycée de Tsarskoe-Selo. On cultive le tsar Alexandre Ier, il compose son premier poème en présence de Derjavine, il soulève l'admiration du vieux poète, et il imite Joukovski, qui avait composé un barde au pays des guerriers russes, où il glorifie les anciens héros de la Russie, raconte la lutte épique des Russes contre les envahisseurs de la patrie. On sait que le Saint-Synode déclare Napoléon antéchrist. Les chansons héroïques populaires font des portraits impitoyables à la fois par la naïveté et l'exagération, mais qui sont saturés d'une sorte de fureur anti-napoléonienne, et qui réunit sous la direction de Piotr Kerievski ces chansons, eh bien Pouchkine et Gogol. Après les 100 jours, d'ailleurs, Pouchkine continue et compose un poème, retour de Sa Majesté le Tsar de Paris en 1815, et dénonce le géant insolent qui allait à sa perte en traînant des chaînes, et relate la déroute de Napoléon, chante l'héroïsme des braves et regrette de ne pas avoir participé au combat. Quant à Byron, eh bien, dans ses débuts, il a résisté à ses maux, et Stendhal rapporte dans ses conversations choisies de Lord Byron qu'en lisant les exhortations de Napoléon aux troupes en Égypte, soldats, souvenez-vous que du haut de ces pyramides, etc., il est fou furieux. Et en 1812, il prend la parole à la Chambre des Lords pour soutenir les catholiques d'Irlande. Il conclut de façon abrupte que Napoléon lui-même serait fort heureux de la défaite à la Chambre de l'émancipation catholique. C'est sur la base de votre tyrannie que Napoléon espère fonder la sienne. Et dans son ode à Napoléon, qui est de 1814, eh bien, il le compare à un fléau de ses semblables, un ténébreux génie, obéi si peu digne de l'être, mais déjà on sent une oscillation entre la haine et l'admiration. La défaite, l'exil, puis la mort du héros font refluer la légende de l'ogre. Mais les contradictions demeurent. Est-il l'héritier des philosophes et de la Révolution, ou l'homme d'ordre qui a étranglé les libertés? Chateaubriand reconnaît qu'après sa mort, on oublia sa tyrannie. Nous nous figurons qu'il nous sauverait aujourd'hui de la honte. Nous sommes sous la monarchie de Juillet. Sa renommée nous fut ramenée par son infortune, sa gloire a profité de son malheur. Ce nouveau Prométhée, cloué à son rocher, persécuté par Hudson Law, s'élève au rang de héros shakespearien, ce qui enchante Byron et Pouchkine, lui-même inspiré par Byron au point de le comparer à Napoléon. Il n'est plus le conquérant comptant les hommes pour rien, le dictateur de l'Europe, mais l'éveilleur à la liberté des nations que j'appellerais les nations romantiques, la Grèce, la Pologne, dominées, partagées, oubliées par le Congrès de Vienne. En Angleterre, la napoléonomanie enfièvre les esprits. Walter Scott consacre un poème à l'empereur, le chant de Waterloo, compose une vie de Napoléon en 1827, viendront ensuite Coleridge, Wordsworth. Wellington réunit tous les ans les vétérans présents à ses côtés lors de la mémorable bataille de Waterloo et érige à Aspley House, qui est sa demeure près de l'escalier, une sculpture colossale en marbre blanc de Napoléon par Canova, sans autre vêtement qu'une draperie, tombant du bras gauche, tenant de la main droite avancée et isolée du corps, une petite statue de la victoire en métal et de la main gauche un long sceptre. Et en 1822, ambassadeur à Londres, Chateaubriand note avec humour « Cette déification, par Wellington, semble plutôt l'œuvre de la vanité d'un concierge que de l'honneur d'un guerrier. » Et il ajoute cette réflexion assez profonde « Général, vous n'avez point vaincu Napoléon à Waterloo. Vous avez seulement faussé le dernier anneau d'un destin déjà brisé. » Autour de lui, eh bien, les Anglais s'engouent de l'illustre captif. On est passé du dénigrement de Nick à un enthousiasme bête, écrit l'ambassadeur. Les mémoires pullulent partout, les gravures sont dans toutes les vitrines, et c'est jusqu'aux bottes de Soult qui font l'objet d'enchères ridicules. Tourmenté par sa postérité, Napoléon espérait ardemment, et il y a réussi, que ses biographes allaient lui attirer la sympathie de ce public européen qu'il avait voué aux gémonies. Et il créait, à mesure qu'elle grandissait, son propre mythe. En 1817, le manuscrit venu de Sainte-Hélène, on sait que c'est un apocryphe de Lulin de Châteauvieux, devient la Bible de la jeune génération romantique avant et connaît un véritable retentissement européen avant le mémorial de Sainte-Hélène, qui est de 1823. Et Byron, d'un coup, se prend feu et flamme pour Napoléon, et avec son ami John Murray, eh bien, il achète une bibliothèque napoléonienne, lit les lettres de Warden, qui avait été le chirurgien sur le Northumberland, lit les livres, les revues, les pamphlets, il a tout ce que l'on peut lire à l'époque sur Napoléon. Alors, les uns et les autres s'écartent petit à petit de cette légende noire, sans pour autant entrer dans la légende dorée qui sera propagée par le Napoléon du peuple de Béranger, mais leur appréciation demeure personnelle, complexe, parfois contradictoire, et j'ai tenté de les regrouper autour de quatre thèmes. Le premier thème, c'est l'identification et la rivalité. Le second, c'est l'homme du destin entre le bien et le mal. Le troisième, c'est l'inventeur des nations romantiques. Et enfin, cette volonté qui est particulièrement marquée chez Chateaubriand de sortir du mythe pour entrer à pas feutrés dans l'histoire. Chateaubriand se veut lucide, mais ne peut s'empêcher de dresser un parallèle entre lui et l'empereur. Byron, lui enfermé dans son égotisme héroïque, entend surpasser Napoléon. Et le russe Pouchkine voit en l'empereur l'homme du destin. Donc on voit chacun avec, si je puis dire, tout ce passé et l'âme nationale qu'il incarne. Alors Chateaubriand, lui, eh bien, reconnaît dans les mémoires que, au commencement de ses mémoires, je n'eus à parler que de moi. Ensuite, je fus environné de miracles. Ces miracles soutinrent ma voix. Ses mains, ce sont celles de Napoléon, étaient pleines de puissantes réalités. Je n'avais pris encore que des chimères. Son duel avec Napoléon le sert et le contente. La France aurait pu gagner à ma réunion avec l'empereur. Mais moi, j'y aurais perdu. Il aurait été réduit, en effet, peut-être à des seconds rôles. Je ne vaux rien qu'en première ligne, dit-il à Fontane. Et opposant, je me suis placé à son niveau. Et sous la monarchie de Juillet, il assiste à l'essor de la légende napoléonienne. Et s'il voit d'ailleurs dans Napoléon un des maillons, j'y reviendrai, de la révolution démocratique, il pressent que son épopée commence. Bonaparte est né dans une île pour aller mourir dans une île, aux limites de trois continents, jeté au milieu des tempêtes et des mers, où Camoens sembla prophétiser en y plaçant le génie des tempêtes. Byron, lui, se confronte à Napoléon, veut l'égaler, le surpasser. Dès 1816, il visite le champ de bataille de Waterloo. Et contrairement à Wellington, eh bien, il en est triste. Waterloo, pour lui, n'est pas une victoire, mais une défaite mélancolique. L'Europe est toujours dans les fers, la tyrannie plus puissante, le passé vainqueur de l'avenir. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Heinrich Heine, qui lui aussi avait combattu l'empereur et qui passe, si je puis dire, de l'autre côté à partir de 1815. Et nous trouvons un contraste tragique entre la gaieté du bal chez la duchesse de Richmond à Bruxelles la veille de la bataille et le carnage et la ruine qui suivirent et qui constituent d'ailleurs un superbe prologue à Childe Harold sur Waterloo. Lady Byron disait de son mari, il est le monarque absolu des mots. Il les utilise comme Napoléon l'a fait des vies pour la conquête sans s'occuper de sa valeur intrinsèque. Et un professeur contemporain, le professeur John Club, de l'Université de Californie, a défini la dernière campagne de Napoléon comme menée à Sainte-Hélène par l'expression « la campagne des mots ». Et Napoléon, par le mémorial, entre dans cette campagne en rivalité justement avec les écrivains. L'exilé n'avait-il pas confié à Lascaz, et la formule est évidemment très... va très loin, il y a deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Ces hauts faits avaient enflammé l'imagination de ses contemporains, ces mots véhiculaient une nouvelle image, et donc il entrait dans le royaume du mythe cher à Byron. Et en 1816, lorsqu'il est à Venise, qu'il considère comme une île, lui aussi, l'île verte de la, l'île la plus verte de son imagination, il entreprend des mémoires, car il a connu, il sait que Napoléon est en train de préparer son mémorial par les lettres de Warden, et puis Don Juan. Et là, je citerai André Suarez qui remarque que sa redoutable figure, celle de Don Juan, fait face à celle de Napoléon. Lui aussi, le joueur d'amour, poursuit une éternelle victoire et il en dissipe le prestige dès qu'il les touche. Et le parallèle entre les deux, entre Byron et Napoléon, pourrait se résumer de la manière suivante. On sait que Byron avait fort mauvaise réputation auprès des Anglais, il le rendait bien aussi d'ailleurs. Et en combattant par les mots, il veut montrer, tout comme Napoléon, voici ce que vous croyez que je suis, c'est Don Juan qui parle, mais c'est Byron, et voici ce que je suis vraiment. Et on voit que la démarche est tout à fait parallèle. Et cette rivalité, passe à, qui est une sorte d'émulation créatrice, et que l'on trouve dans ce journal, dans ces mémoires, qui malheureusement ont été en partie brûlées, donc on ne peut pas comparer l'une avec l'autre, n'exclut pas l'identification. Lorsque Byron écrit « Mais pour les cœurs ardents, le repos est en fer, ta perte vint de là, il existe dans l'âme une vigueur, un feu qui se sent à l'étroit, dans la prison du corps et prétend dépasser l'équilibre permis de médiocres désirs. Parle-t-il de lui ? Parle-t-il de Napoléon ? » En tout cas, les poèmes de Byron chantent la gloire de l'homme fort, le surhomme orgueilleux, égoïste, solitaire. C'est le triomphe de l'individualisme amoral qu'incarne à ses yeux Napoléon et qu'il fait sienne. Quel autre héros contemporain aurait pu s'adapter à ce que glorifie Byron, sinon Napoléon ? Un homme seul contre tous. Et le byronisme romantique se nourrit de cet esprit de révolte contre la tradition, les lois, tout ce qui s'oppose à la volonté du héros. Napoléon, qui ne reconnaissait que les lois qu'il faisait lui-même, était de cette manière non seulement excusé d'avoir trop usé de sa volonté au détriment des autres, mais glorifié comme le héros de la perfection romantique. Pouchkine, lui, est tenté par une question qui est très proche de celle de Byron et qui ressurgira avec le Raskolnikov de Dostoïevski et le surhomme de Nietzsche. Le héros peut-il s'échapper par son génie à tout impératif moral ? Pour Byron, on l'a vu, il est absous parce que héros. Chez Pouchkine, la réponse est beaucoup plus ambiguë. Et les deux romans qu'il publie, Eugène Onegin entre 1821 et 1831 et La Dame de Pique, nous montrent une caricature de personnages qui sont atteints de cette maladie napoléonienne, de napoléomanie, mais qui sont un peu étranges. Par exemple, dans La Dame de Pique, Hermann est un personnage romanesque. Il a le profil de Napoléon et l'âme de Méphistophélès. Je crois qu'il doit avoir au moins 3 crimes sur la conscience, écrit un de ses amis. Et Lisa Vetta, la jeune fille qu'il courtise, a de lui-même la même impression, je cite, « Il est toujours assis sur le rebord de la fenêtre, les bras croisés, fronçant les sourcils d'une manière menaçante. Dans cette attitude, il rappelle étonnamment le portrait de Napoléon. » Pour Pouchkine, les titans sont beaux dans la mythologie, mais comment les introduire dans la vie courante, à moins, et c'est là que nous entrons dans le dessin, à moins qu'il n'ait en secret une mission particulière. Et lorsque Napoléon meurt, à l'île d'Elbe, il s'écrit « Le destin merveilleux s'est accompli, le grand homme s'est éteint. » Et dans Le Héros, qui est de 1830, il rapporte en vers le dialogue d'un poète avec un ami. Ce dernier lui demande « De tous les élus de la gloire, lequel domine le plus sa pensée ?» Et le poète de répondre « C'est lui, toujours lui, ce guerrier devant qui les rois se courbèrent. » L'ami se met alors à critiquer Napoléon en se demandant si c'est en conquérant l'Italie, en dictateur ou en héros, entrant dans Moscou fumande, qu'il le préfère. Et le poète lui réplique que ce n'est pas sur le champ de bataille ni en souverain, ce n'est pas assis sur un rocher martyrisé par l'inaction, mais en roi thaumaturge, je crois que c'est l'expression qui convient, entouré de morts vivants, marqué du sceau de la peste, reine des maladies, nous sommes à Jaffa, il s'avance entre les grabats et serre la main aux pestiférés, en faisant renaître l'espoir. Et dans un autre ouvrage, eh bien, qui s'appelle « Le gardien sommeillait sur le seuil royal », qui est 1823, il imagine un fantôme qui pénètre dans le palais du tsar. C'était un homme merveilleux envoyé par la Providence, instrument fatal d'un ordre mystérieux, ce cavalier devant qui s'inclinaient les rois. On voit combien ce thème revient constamment, et il s'interroge encore en 1824 dans une strophe qui est restée inachevée. « Pourquoi as-tu été envoyé ? Était-ce du bien ou du mal que tu fus l'exécuteur ? Pourquoi t'es-tu éteint ? Pourquoi as-tu brillé, visiteur merveilleux de la terre ?» Donc, cet homme du dessin à laquelle Pouchkine ne répond pas, mais qui montre effectivement cette sorte de flamme qui saisit Pouchkine après ses poèmes héroïques de 1812-1813. Le troisième thème, c'est celui de l'éveilleur des nations romantiques. En effet, à la tête d'un empire tout français, il a semé en retour, la Prusse en tête, le germe des passions nationales, réveillé le passé des vieux peuples, gorgés de légendes, prêts à s'élever contre l'occupant. Chateaubriand qualifiait Napoléon de poète en action, prolifique de son génie et de son armée. En effet, il a bouleversé l'Europe. À cause de lui, les coalitions se forment, les armées s'ameutent, les écrivains écrivent, les philosophes se mobilisent, les musiciens composent. Il est un suprême accélérateur de l'histoire, pour reprendre une formule d'Halévy. Il reprend à la fois la mystique des droits de l'homme et puis cette haine des vieilles cours européennes. Il révèle en fait les peuples à eux-mêmes et après lui, les Anglais se sentent plus anglais, les Allemands plus allemands, les Hongrois plus hongrois, les Italiens plus italiens. Avec Napoléon, la nation s'éveille et entre dans son propre rêve. État d'âme romantique, marqué par la nostalgie des origines, retrouvailles fascinées des caractères immémoriaux, distinctifs d'une communauté donnée, faculté d'émerveillement, d'un trésor de signes miraculeusement retrouvés, puisque même on compare Napoléon à Barberousse qui dormirait dans son tombeau, qui un jour va se réveiller pour sonner le réveil de la nation allemande. Et en 1817, un certain Václav Halka, par exemple, qui est un philologue, visite en Bohême, avec un vieux curé, un caveau où gisent en la poussière quelques flèches déposées au temps des guerres hussites. Il découvre un manuscrit dans la vieille langue bohème, quelques lambeaux de verre, c'est suffisant pour en faire un monument littéraire national. Et en Norvège, Henrik Wergeland, poète de la Renaissance nationale, compose une ode à Napoléon. L'expédition d'Égypte est aussi un tournant décisif vis-à-vis de l'Empire turc. Ce n'est plus le sultan de l'enlèvement au sérail. L'itinéraire de Paris à Jérusalem avait déjà sonné, si je puis dire, le glas de l'islamisme rencontré par l'auteur. On voit apparaître brusquement, de nouveau, comme au temps des croisades, un turc oppresseur, fourbe, démoniaque, contre laquelle s'élève la Grèce. Et dans le deuxième chant de Childe Harold, de Byron, eh bien, on lit ceci. Et le texte, je trouve, est tout à fait magnifique. « Belle Grèce, mélancolique vestige d'une puissance évanouie, immortelle bien que disparue dans ta chute toujours plus grande, qui maintenant conduira en avant tes fils dispersés et détruira une longue habitude d'esclavage, comme tu es belle en ton âge de douleur, patrie des dieux perdus et d'hommes semblables aux dieux. » Childe Harold traduit « plagié dans toute l'Europe, donnait à la Grèce une représentation qu'en réclamait l'imagination romantique nourrie par l'épopée napoléonienne. » Et on pourrait citer aussi, en 1827, Prosper Mérimée, qui crée une mystification, Guzla, qui est un choix de poèmes illyriques recueillis en Dalmatie, Croatie, Serbie, Herzégovine. On sait que Napoléon avait composé des provinces illyriennes qui, en 1813, furent rattachées à l'Empire. Et aussitôt, Mickiewicz, le poète polonais, et Pouchkine le traduisent. Et on lit ceci, qui est assez naïf, mais amusant. Napoléon a dit « Réveille-toi, Illyrie ». L'Illyrie se réveille et s'interroge en soupirant. « Qui m'appelle de nouveau, grand héros ? Est-ce roi ? Est-ce toi ? Depuis 14 siècles, Illyrie est restée endormie sous la mousse. Aujourd'hui, c'est à elle que Napoléon fait appel. Donc, contre la vieille Europe des rois restaurés par Metternich, Napoléon se transforme en missionnaire armé de la Révolution française. Pouchkine en fait le héros de notre temps, pour reprendre le titre d'un livre de Lermontov, napoléonien lui aussi très ardent, et donc l'idée d'une liberté des nations se répand à travers l'Europe. Avec déjà les premiers signes de fracture. L'émancipation touche tous ces peuples d'Europe, et Pouchkine, en patriote russe, va prendre parti déjà pour les Russes contre les Polonais et Mickiewicz, qui avait fait de Napoléon une sorte de Christ, envoyé du Seigneur et abandonné de Dieu. Et dans le poème aux détracteurs de la Russie, 1831, il écrit « Vous nous haïssez, il s'agit des Polonais, pourquoi ? Répondez, est-ce parce que sur les ruines de Moscou fumante, nous n'avons pas reconnu la loi insolente de celui devant qui vous trembliez vous-même, parce que vous nous renversâmes dans l'abîme l'idole qui pesait sur vous ?» Donc nous voyons déjà en filigrane se profiler cette Europe du XIXe siècle. Enfin, le mythe, la volonté de sortir du mythe, qui, je crois, appartient davantage à Chateaubriand. Déjà, dans sa réédition de Bonaparte et des Bourbons, il avait dit, il justifiait sa première attitude en disant, on ne voyait que la moitié du tableau. Les défauts étaient en saillie dans la lumière, les qualités plongées dans l'ombre, le temps a marché, depuis, j'ai dû parler d'un sceptre perdu, d'une épée brisée, en historien consciencieux. Nous trouvons également un texte de 1827 où il compare Napoléon à Washington et il reconnaît que Washington a fondé une république stable et libre et que Napoléon, lui, fut de la race d'Alexandre. Mais alors que dans le premier pamphlet de 1814, il considérait que tout était fini, là il dit en lui « Toutes nos gloires d'autrefois se réunirent et firent leur dernière explosion. » Le grand homme est le dernier homme, l'individu par excellence, comme une borne sur son caillou là-bas jeté dans les eaux. Napoléon clôt le passé et le présent ne lui semble pas bien attirant. La rapidité des fortunes, la vulgarité des mœurs, la promptitude de l'élévation et l'abaissement de personnages modernes outragent, je le crains, à notre temps une partie de la noblesse de l'histoire. Ce qui n'exclut pas la lucidité et l'esprit critique, et il montre effectivement, dans Le Conservateur en 1819, dans Les Études historiques en 1831, dans Les Mémoires d'Outre-Tombe en 34-40, lorsqu'il écrit ces sept livres consacrés à Napoléon, eh bien, c'est le lien qui existe entre les Capétiens, Richelieu, Louis XIV, Louis XI, que vous citiez tout à l'heure, là aussi, il contribue à sa légende noire. La Révolution, qui n'a fait qu'accélérer la politique capétienne, et Napoléon, qui vient la clore. Et voici la vérité, dit-il en 1819. Ce n'est point la liberté, c'est l'égalité absolue qui a été le principe réel et qui forme encore le vrai caractère de la Révolution. Et on peut dire que cette mainmise de l'État centralisé sur le corps social n'est pas seulement le trait permanent qui joint le nouveau régime à l'ancien, Bonaparte à Napoléon, mais qui explique aussi cette idéologie démocratique déjà présente à l'État latent, et ce qu'a montré par exemple François Furet, dans l'ancienne société française. Et Chateaubriand montre qu'en détruisant non pas l'aristocratie, mais le principe aristocratique dans la société, la monarchie a supprimé la légitimité de la résistance sociale à l'État. C'est Richelieu qui en a montré l'exemple, puis Louis XIV, la Révolution et Napoléon. Et la reconstruction a réussi parce que, dit-il, les Français vont instinctivement au pouvoir. Ils n'aiment point la liberté. L'égalité seule est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liens secrets. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français. Alors, à côté de cette société où il reproche à Napoléon d'avoir réduit les Français à une société où l'obéissance passive repousse le genre humain et abâtardit les caractères, eh bien, il reste aussi le grand Napoléon, c'est-à-dire que jamais véritablement chez Chateaubriand, la réalité de l'historien qui apparaît là, dans ce côté presque pré-tocquevillien, eh bien, ne se sépare du mythe. Et lorsqu'il dit, par exemple, que Napoléon se lève, nimbé d'une lumière orientale, lui qui tient du sultan, à la fois le despotisme, il revient toujours, et l'éclat, et tout l'empire se dresse dans un songe immense et rapide, comme la nuit qui l'avait enfanté. Cette limite de l'histoire et ce retour au mythe qui reste très présent chez Byron et qui va chercher même à sortir de l'empire du royaume des mots pour rentrer dans celui de la des faits en allant combattre pour la cause philhellène et mourir à Missolonghi, montre effectivement l'extraordinaire attraction que Napoléon a exercé, que ce mythe a exercé, non seulement parce qu'il en était l'auteur inspiré, et le mémorial, évidemment, a été le livre de chevet de toutes ces générations, mais en même temps, tous les mémoires et tout ce qui a été publié à l'époque. Alors, ils y ont contribué. Napoléon est, pour les uns et pour les autres, l'homme du destin. Même Chateaubriand le reconnaît lorsqu'il dit que Wellington n'a fait que rompre un destin qui était déjà en partie brisé. Napoléon a dompté d'abord le destin par son énergie, qui est aussi une notion romantique par excellence, mais le destin l'emporte. Napoléon en devient victime. Ce qui est en tout cas changé entre le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est que de la détermination physique, biologique, qui était celle de Condillac, et des sensualistes, et de Diderot par exemple, eh bien, s'opère avec Napoléon et ses grands écrivains un revirement vers autre chose qui est un destin romantique et mystique. Et je citerai Marc Bloch qui dit que le XIXe siècle a été une des époques les plus mythomaniaques qui soient. Elle en fut une, comme en témoigne le destin du barde Ossian. Chateaubriand en est aussi une autre preuve. Et on sent la fierté qui soutient l'édifice des mémoires d'outre-tombe d'appartenir à un siècle qui a pu fabriquer encore des mythes. Et il dit « Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte, c'est une figure légendaire composée des lubies du poète, des souvenirs du soldat et des contes du peuple. « Ma vie est un roman », disait Napoléon. Et dans La vie de Rancé, en 1843, Chateaubriand lui fait écho. Il écrit ceci : quiconque est voué à l'avenir et au fond de sa vie est au fond de sa vie un roman pour donner naissance à la légende, mirage de l'histoire. Ce mirage qui fera de Napoléon un héros épique chez Stendhal, Hugo, Carlyle, Thomas Hardy et Abel Gance et beaucoup d'autres. En somme, on peut dire que Napoléon, dans cette dernière campagne menée de son île de Sainte-Hélène, eh bien, a gagné, c'est le contre-Waterloo, je crois, de Napoléon. Jusque dans le royaume des mots, il garde une suprématie, laissant les peuples, selon l'expression de Chateaubriand, dans une agitation prophétique de l'avenir. Mais il faut évidemment y ajouter deux réserves. Le Second Empire n'est pas loin et les guerres européennes du XIXe et du XXe siècle, qui vont disloquer les grands empires multiethniques, ébranlés par cet éveilleur des nations, vont livrer ces nations romantiques à un avenir qui sera, on le sait, incertain et belliqueux. Je vous remercie.
C'était Jean-Paul Clément, correspondant de l'Institut, directeur de la maison de Chateaubriand, intervenant devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 27 juin 2005 au Palais de l'Institut de France. Communication intitulée « Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon ». Une communication publique prononcée dans le cadre de la séance de l'année de travail définie par le président de l'Académie en 2005, l'historien Jean Tullard. Peut-on faire confiance aux historiens. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du texte de cette communication de Jean-Paul Clément sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr.
Vous écoutez Canal Académie.